soir. Deux sujets sont au centre de notre tribune de la presse de ce soir. Il s'agit de la pétition lancée par le secrétaire national du PPRD visant le changement de la constitution de la RDC. Claude Machala estime, selon ses propres termes, que l'actuelle constitution est pleine d'iniquité. Et comme deuxième sujet, nous parlerons des défis à relever pour consolider la paix au Nord Kivu après les opérations militaires contre les ADF. Tels sont les thèmes des tribunes de la presse de ce soir. Trois confrères sont avec nous dans cette émission. Il s'agit d'Ambroise Mamba, il est journaliste à la télévision Congo Web, une télévision qui est émise depuis Kinshasa. Bonsoir Ambroise Mamba.
Bonsoir Samuel, bonsoir également à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Nous sommes également avec Claude Molichot, il est journaliste à la radio-télévision nationale congolaise, RTNC. Bonsoir Claude Molichot.
Bonsoir Samuel Kachak.
Et nous sommes également avec Israël Moutala, journaliste à Géopolis, un magazine économique. Bonsoir Israël Moutala.
Bonsoir cher Samuel.
Bienvenue à tous dans cette émission. La pétition lancée par Claude Machala, secrétaire national du PPRD, visant le changement de la constitution de la RDC et les défis à relever pour consolider la paix au Nord Kivu après les opérations militaires contre les ADF, figure parmi les sujets qui ont retenu l'attention des journaux parus cette semaine à Kinshasa. Écoutons cette revue de presse que nous propose Alain Hirong.
Bonsoir. Commençons cette revue de presse par la controverse autour de la présidentielle de 2016. Révision constitutionnelle, les Faucon pousse Kabila à la faute, révèle le potentiel. Les faucons de la majorité présidentielle rivalisent d'ardeur et de génie pour offrir à leur leader l'opportunité de rempiler malgré les restrictions constitutionnelles. Leur travail, un vrai coup de force en perspective, consiste à modifier le mode de scrutin présidentiel. Il n'y a pas mieux pour pousser Joseph Kabila à la faute, estime le quotidien. Le Phare note également dans sa manchette « Mandat présidentiel, manœuvre pour contourner le 220 ». Ainsi, l'article 220 pourrait rester en l'état avec sa disposition interdisant à tout Congolais d'exercer plus de deux mandats présidentiels, d'où le verrouillage constitutionnel tant clamé par les opposants à toute révision constitutionnelle n'aurait plus aucun effet sur Joseph Kabila, directement visé par la campagne « Touche pas à mon 220 ». Alternance au pouvoir en RDC, Kabila devant un dilemme. Faut-il quitter le pouvoir en 2016 ? S'interroge à son tour la Référence Plus. Mais tout le monde au sein de la majorité présidentielle n'est pas d'accord avec ce projet qui est proposé à la réflexion des instances du regroupement. Dans la majorité, il y a aussi des personnes qui pensent que le président Kabila devrait respecter la Constitution dans sa forme actuelle et passer la main pour sauver la démocratie et garantir la paix. Concernant la traque des rebelles ougandais ADF, RadioKapi.net rapporte la déclaration du porte-parole militaire des FRDC au Nord Kivu selon laquelle tous les sanctuaires et les points stratégiques de ces rebelles ougandais ont été détruits. Malgré cette victoire des FRDC, l'administrateur du territoire de Beni affirme que la population hésite encore à rentrer. Il reste aussi l'épineuse question des otages dont on est sans nouvelles jusqu'à ce jour. Rapportant la position des deux animateurs du Parlement de la RDC à l'ouverture de la session le week-end dernier, la prospérité indique que les deux hommes s'intéressent beaucoup au processus électoral. Kengo Adondo, écrit le journal, a en outre affirmé que les délégués aux concertations nationales sont pour que le nouveau calendrier électoral programme en priorité les élections locales, municipales et urbaines avant celles des provinciales, sénatoriales, législatives et présidentielles. Et Robin Minaku d'ajouter, poursuit le média de Kinshasa, que l'Assemblée nationale devra examiner en priorité le texte de loi modifiant et complétant la loi du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telles que modifiées à ce jour.
Merci Alain Rongo. Ambroise Mamba, je rappelle que vous êtes journaliste à la télévision Congo Web. C'est une télévision qui est émise depuis Kinshasa. L'actualité cette semaine est aussi marquée par l'ouverture de la session parlementaire dans les deux chambres du Parlement. Selon vous, quelles pourraient être en fait les matières essentielles qui pourraient être abordées par les députés et sénateurs au cours de cette nouvelle session parlementaire?
Bon, je pense que la matière la plus importante, à mon avis, reste la feuille de route électorale de la CENI. Je suis tout simplement désolé, déjà dans les discours d'ouverture, que le président du Sénat, par exemple, donne déjà son faveur à cette feuille de route, puisqu'il parle de la priorité en ce qui concerne les élections provinciales locales. C'est à partir peut-être de ces élections-là qu'on voit que ce calendrier électoral est en train de s'étendre jusqu'au-delà même de 2016. Ça veut dire que cette feuille de route en elle-même contient il y a cette intention-là de prolonger le mandat présidentiel. C'est tellement désolant de la part du président de la CENI de donner déjà son faveur à cette feuille de route à partir de son discours d'ouverture.
Je vous regarde encore dans cette émission. Claude Moluchot, je rappelle que vous êtes journaliste à la Radio-Télévision nationale congolaise. L'actualité cette semaine est aussi marquée par la célébration hier jeudi de la Journée internationale de la francophonie. Que pouvons-nous retenir de cette journée?
Voilà, la RD Congo préside pour 2 ans cette organisation internationale dont les Français est en train de lier plus de 75 pays ayant vraiment en partage la langue française. Et c'est pour dire que c'est un anniversaire qui concerne d'abord la RD Congo parce que on a organisé les sommets. Il y a eu des recommandations, des résolutions qui touchent même au niveau des avantages de cette organisation au niveau national. Il fallait les évaluer et voir si on est avancé. Effectivement, il y a beaucoup d'opportunités. Il y a des Congolais qui se sont distingués dans différents projets qu'offre la francophonie. Et moi, je pense que c'était très, très important qu'on donne un cachet particulier à cet anniversaire et ça qui a été fait au niveau du fleuve Congo Hôtel.
Israël Moutel, je rappelle que vous êtes journaliste à Géopolis, c'est un magazine économique. Au-delà de ces deux sujets énoncés par les confrères par rapport à l'actualité qui a dominé la semaine, quels sont les autres sujets d'information que vous pouvez relever qui ont alimenté l'actualité cette semaine?
Bon, cette semaine, c'est aussi la réunion de Kindakati qui s'est tenue hier à la fin présidentielle dans le Bas-Congo, où la majorité était autour du chef de l'État pour arrêter une stratégie commune par rapport aux échéances politiques à venir. Et donc, je pense que c'est cette réunion qui alimente un peu les commentaires dans les salons et pour savoir un peu de quoi sera fait demain sur le plan politique.
Merci, Israël Moutel. Je reviens à vous tout à l'heure dans cette émission. Sans transition, nous passons à notre premier thème de ce soir. Une pétition circule depuis un certain temps à Kinshasa. Son initiateur Claude Machala, secrétaire national du PPRD, parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Il veut obtenir 100 000 signatures auprès de la population pour faire changer la constitution actuelle en RDC. Ce cadre du parti présidentiel estime que l'actuelle constitution est pleine d'iniquités selon ses propres termes. Écoutons Claude Machala donner les raisons de sa démarche au micro d'Innocent Olenga.
J'aimerais d'abord apporter une précision. Nous, il ne s'agit pas d'une pétition pour la révision de la Constitution. Nous, il s'agit du changement de la Constitution. Parce que si vous la lisez très bien, cette Constitution-là, vous allez voir que nulle part, cette Constitution a interdit à un groupe de citoyens ayant constaté des iniquités contenues dans cette Constitution-là, puisse aussi demander, au lieu qu'elle soit révisée, mais qu'elle soit carrément changée. Et puis, pourquoi il faut la changer? Vous savez très bien que l'actuelle Constitution, c'est le fruit d'un compromis entre belligérants. Il fallait qu'il y ait la paix. Notre peuple n'avait pas de choix. 2005. Et à la rédaction de cette fameuse constitution, on a vu même participer des criminels. Je crois qu'un document déjà suyé au départ ne peut pas continuer à avoir le soutien populaire. Nous voulons une constitution qui soit dynamique, qui s'adapte aux enjeux de l'heure, aux urgences de l'heure, c'est-à-dire à la cohésion nationale. Et puis, pourquoi il faut la changer? À un député national, à un sénateur, on ne détermine pas le nombre de mandats. Ces gens-là peuvent se présenter autant de fois tant que physiquement ils sont forts. Mais au chef de l'État, à qui on demande tout dans un pays qui a été mis à terre, 5 ans on trouve que c'est suffisant pour qu'une vision politique rationnelle et raisonnable soit réalisée.
52 fois.
Mais pourquoi pas 20 fois?
Ambroise Bamba, quelle lecture vous faites de cette démarche de Claude Machala, secrétaire national du PPRD?
Vous savez, lorsqu'on a suivi la revue de presse qui a été bien traitée, bien commentée par Alain Rung, il y a les journaux Le Potentiel qui a trouvé qu'il y a des faucons qui poussent Joseph Kabila à la faute. Je considère que Claude Machala fait partie de ces nombres, de ces faucons qui poussent le président de la République à la faute, justement. Quand il parle des iniquités qu'il y a dans la Constitution aujourd'hui, je lui pose la question de savoir quand est-ce qu'il a constaté ces iniquités. Il a constaté ces iniquités après avoir goûté la tomate. Il a goûté la tomate pendant 10 ans, c'est pas suffisant. Et quand il trouve que la tomate est en train de se déterminer, et il trouve une raison pour déceler les iniquités dans la Constitution, comme ça il a la possibilité d'avoir encore 5 ans, ou bien 10 ans, pour goûter la même tomate. C'est ce que j'ai dit, il est parmi les faucons qui poussent le chef de l'État à la faute. Un faucon qui a travaillé à la Sonal, et qui a eu un dossier, qui a été chassé de la Sonal, et c'est ce même faucon, malheureusement, qui veut obtenir 5000 signatures de la part des Congolais. Je m'imagine, des 5000 signatures, il va les obtenir de qui? Des Congolais. Il va donner combien? 10 dollars à chaque Congolais, et ça fera combien? Un total d'1 million de dollars pour qu'on parvienne à obtenir cette révision ou bien ce changement de la Constitution. J'ai dit non. Et le chef de l'État lui-même...
Est-ce que vous pensez qu'au sein de la population, il y a aussi des gens qui pensent de la même façon que lui?
Alors, il faudra les prouver. Il faudra les prouver au sein de la population qui pense comme ça. Comment la population a besoin de manger? Est-ce que la population a besoin de changer la Constitution? Même sans Constitution, même si la population mange, elle est à l'aise. Mais si elle a une constitution alors qu'elle ne mange pas, parce qu'on sait que cette population-là va approuver cette démarche, j'ai dit non. Et le chef de l'État aujourd'hui est aussi à deux doigts de la faute, à partir même de la démarche de Claude Machala, parce que si vous suivez bien même son discours à Kingakati, il a dit quoi? Je n'ai pas les dauphins. Ça veut dire que Joseph Kabila est dauphin de lui-même. Il dit, par exemple, c'est la distraction, mais il n'a pas dit directement à ce faucon qui le pousse à la faute d'arrêter sa démarche. Il l'a pas dit. Il n'y a pas un message clair à l'endroit de ceux qui initient cette pétition pour qu'ils arrêtent. Mais il dit tout simplement que non, je me concentre sur mes 2 ans et je vais réaliser mes promesses électorales. Mais retenez qu'il n'y a pas de dauphins. Donc, le suspense demeure. Le chef de l'État est tellement spécialiste dans le maintien de suspense. Sur des questions comme ça, je suis désolé. Il fallait peut-être qu'il y ait un message clair vis-à-vis de ceux qui initient une pétition pour qu'on leur dise d'arrêter. Sinon, c'est déplorable.
Claude Moulichaud, vous avez suivi Ambroise Mamba. Est-ce que vous pensez vraiment que le moment est vraiment propice pour changer la Constitution telle que le propose Claude Machala, qui est aussi secrétaire national du PPRD?
Moi, je dirais qu'il n'y a pas de document parfait. Il y a toujours des petites choses à retoucher dans tout document conçu et réalisé par un homme. Et la Constitution aussi n'est pas parfaite à 100%. C'est vrai que, comme l'a dit Claude Machala, ça a été rédigé dans un contexte bien déterminé. Et puis, il faut préciser que l'initiative de la révision constitutionnelle est bien définie par l'article 218 de la Constitution.
Révision constitutionnelle et non changement de la Constitution.
Effectivement, c'est la révision. Changement, c'est-à-dire qu'on part de l'article du premier jusqu'au dernier et on change les tours. Mais
selon la lecture de Claude Machala, il faut changer la Constitution.
Il y a beaucoup d'iniquités.
Il y a beaucoup d'iniquités.
Moi, je ne pense pas qu'il faut vraiment changer. Mais la révision... je pense que ça peut intervenir parce que il y a des articles qui sont appelés à être révisés qui ont été inscrits dans la Constitution et qui nécessitent aujourd'hui, qui n'ont plus de place aujourd'hui au sein de cette Constitution. Et ici, il faut préciser que c'est son droit, Claude Machala, parce que l'article 218 de la Constitution autorise à ce que quelqu'un, un Congolais, chercher à récolter 100 000 signatures dans une pétition et saisir les deux chambres du Parlement, les deux chambres du Parlement pour essayer un peu d'actionner les mécanismes parlementaires afin d'arriver à la révision constitutionnelle. Il y a également le président de la République qui peut initier la révision, le gouvernement après les délibérations du Conseil des ministres. Également, il y a les deux chambres du Parlement. Et si Claude Machala a raison, mais j'ai dit ceci, dans le contexte actuel, est-ce que il est vraiment urgent et important maintenant là de réviser cette constitution parce que nous sommes en train de nous lancer dans une bataille.
C'est une question à laquelle vous pouvez aussi répondre.
Oui, et moi je pense que ça va donner notre connotation parce que vous avez suivi toutes les déclarations qui viennent du côté de la majorité présidentielle, que le chef de l'État est respectueux et sera toujours respectueux de la constitution. C'est-à-dire que il va respecter la Constitution jusqu'à l'échéance de son mandat, le 19 décembre 2016. Et si on arrivait à toucher l'une des dispositions de la Constitution, comme on l'a fait en 2011 pour changer les 2 tours à 1 seul tour de l'élection présidentielle, ça va donner notre connotation au niveau de la population et ça risque d'envenimer ou de brûler la case. C'est selon mon impression. Mais sur le plan de démarche, Claude Machala a raison parce que la Constitution l'autorise.
Fayoulou Martin a commencé à récolter 600 000 signatures pour demander le départ de Malou Malou à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. C'est son droit. Et la Constitution l'exige. Donc, Machallah aussi a son droit. Mais les contextes, il faut toujours contextualiser les faits. Est-ce que c'est le moment? Est-ce qu'il est opportun? Est-ce qu'il est urgent de le faire pour ne pas brûler la case? Parce que aujourd'hui, vous savez que le Congo, c'est un pays fragile. Et nous venons d'une longue guerre. Et c'est pas vraiment, ce n'est pas
Merci.
Le moment d'arriver à réviser la Constitution. Ça risque de nous amener à des troubles inimaginables.
Je reviens à vous tout à l'heure, Claude Molicho. Israël Moutal, quelle lecture vous faites de cette démarche de Claude Machallah?
C'est son droit le plus absolu. Mais je constate quand même que ce droit absolu qu'il a, de par la Constitution, d'initier une pétition, est dicté par des motivations qui sont peu enviables. Je pense que l'argumentation de Claude Machallah est d'une pauvreté morale et d'une pauvreté philosophique à en mourir. Et c'est dommage d'avoir une telle classe politique qui n'est pas respectueuse de sa parole, qui veut absolument préserver ses intérêts égoïstes au détriment de la population. Si j'ai bonne mémoire, la majorité actuelle a modifié la Constitution il n'y a pas si longtemps que ça. Nous sommes vers la fin de 2010, au début 2011, et à cette époque-là, n'avait-elle pas remarqué les iniquités dénoncées aujourd'hui par Machallah? De quelles iniquités parle-t-il? Il parle du fait que le chef de l'État est jeune et il doit justement avoir la possibilité de se présenter. Mais dans toutes les démocraties, c'est cela. Il y a le Parlement où tu peux autant de fois demander le suffrage, mais pour certaines fonctions importantes, on demande qu'il y ait une limitation de mandat parce qu'il y a la notion de l'usure du pouvoir, il y a la notion de laisser la chance à d'autres Congolais justement d'avoir des idées. Le chef de l'État a des idées, c'est vrai, mais il n'y a pas que lui qui a des idées. Il y a d'autres Congolais qui ont des idées et il faut donner à tous les Congolais la chance de mettre en œuvre leurs idées et leurs projets. Et si le chef de l'État, justement, a de bonnes idées comme le suggère Claude Machallah, il n'a qu'à désigner au sein de sa majorité quelqu'un qui porte ces idées-là. Les idées doivent être portées.
Mais le chef de l'État dit qu'il n'a pas de
dauphin. Je me rappelle du général de Gaulle à qui, à une époque, on avait demandé justement de rester au pouvoir. Et puis il avait dit non, après moi, il n'y aura pas de pénurie, il y aura trop plein parce que la France regorge de talents. Donc nous demandons justement aux gens de la majorité d'être ferrains, d'épouser la vision et les idées et de les faire porter par quelqu'un d'autre pour respecter la Constitution. J'aimerais terminer une chose très importante, Samuel, c'est que nous sommes en 2006 et quelque part par là, après le consensus de Sam City, on avait proposé cette Constitution qui a été passé par voie référendaire. Et à l'époque, si vous suivez tous les discours des actuels dirigeants, la majorité disait que c'était la meilleure constitution qui soit, elle va garantir la stabilité, elle va garantir l'alternance au pouvoir, et bref. Aujourd'hui, ils oublient les propos qu'ils avaient tenus il y a 4-5 ans, ils veulent nous proposer une autre démarche, au nom de soi-disant, selon Claude Machallah, de la cohésion nationale. Mais au contraire, c'est de mettre le pays à feu et à sang. Et donc, privilégier l'intérêt général, et je pense que la meilleure façon d'y parvenir, c'est de respecter la Constitution.
Ambroise Mamba, Israël Moutal demande qu'on privilégie l'intérêt national. Mais si Claude Machallah trouve que la Constitution est pleine d'iniquités, pourquoi ne pas laisser le pouvoir issu des élections de 2016, par exemple, parachever ce travail, ou bien faire ce travail? Pourquoi cette démarche seulement à la veille des élections? Est-ce qu'il y a un guise sous roche ou quoi?
Mais l'iniquité dont parle Claude Machallah, c'est quoi? L'iniquité dont parle Claude Machallah, c'est le fait qu'on a limité le mandat présidentiel à 5 ans.
On a limité le mandat présidentiel,
une fois renouvelable.
On donne
la grande iniquité.
L'opportunité aux députés, aux sénateurs de se représenter plusieurs fois.
Mais c'est ça ce que je dis. C'est la grande iniquité que Claude Machallah décèle dans l'actuelle constitution. Je venais de le dire tout à l'heure, que par rapport à cette iniquité, il remarque qu'après le deuxième mandat, on ne va plus goûter la tomate. Et voilà l'iniquité que lui voit là-bas, parce que la tomate est en train de partir. Écoutez, il faut retenir une chose. Lorsqu'on est au pouvoir, on oublie que la fin doit arriver. Rappelez-vous d'un livre, si vous l'avez lu, un livre de Nguanda, qui était à côté du président, de l'ancien président Maréchal Mobutu, qui a dit ceci exactement. Nous avons tout fait. Nous avons appelé le monde entier pour que nous puissions conserver le pouvoir. Mais nous nous sommes rendus compte que la fin, c'est la fin.
Ce livre-là, c'est Ainsi sont les glaives, bien sûr, le livre de Nguandangou.
Ouais, justement. Alors, nous nous sommes rendus compte que la fin, c'est la fin. Lorsque la fin arrive, on ne sait pas l'arrêter. Aujourd'hui, les Claude Machala et les autres faucons sont en train de se battre pour arrêter la fin. Mais lorsque la fin arrive, malheureusement, ça arrive le jour où les gens ne l'auront jamais voulu. Voilà pourquoi il y a tout ce que on nous présente aujourd'hui pour garder la tomate. Mais lorsque la fin arrive, et c'est vraiment difficile. Il faut lire aussi entre les lignes. Lorsque le président de l'Assemblée nationale, ce matin, parle... travers même Radio Okapi, il a dit exactement que le chef de l'État ne remettra le pouvoir qu'à celui qui sera élu. Et élu selon les normes. Qu'à celui. Donc quand on lit entre les lignes...
Selon les normes, cela veut dire quoi exactement?
Justement, ça veut dire quoi exactement? Donc on ne pouvait même pas aujourd'hui être dans un débat pour parler du mandat présidentiel, parce que le débat est clos dans la Constitution. S'il faut respecter la Constitution, on ne peut pas en parler dans un débat. Consacrer des émissions pour parler de ça. Non, on peut consacrer des émissions aujourd'hui pour parler de ce que Kabila a fait, ce qu'il doit faire demain, pour qu'il y ait la guerre aujourd'hui, par exemple. Qu'est-ce qui doit être fait pour restaurer l'autorité de l'État, pour donner à la population à manger? Mais on ne peut pas consacrer des heures dans un débat qui est déjà clos à travers la Constitution. Ça, c'est déplorable pour notre pays. Aujourd'hui, les jeunes de la majorité sont en train de nous pousser à un retour vers la crise des légitimités de pouvoir. Parce que là, on risque de légitimer des rébellions. Peut-être on va en parler tout à l'heure. On risque de légitimer des rébellions dans l'Est, là-bas. Et puis on va pleurer demain. Il y a guerre, ainsi de suite. Alors qu'aujourd'hui, on a la situation sur terrain. On vous dit de prendre la décision. Vous êtes en train de réfléchir. Et ce qui s'est passé à Kingakati hier, c'est encore un suspense qu'il faudra... élaguer.
Je reviens à vous tout à l'heure, Ambroise Mamba. Claude Molichaud, quels pourraient être, selon vous, les avantages ou les inconvénients d'un changement de constitution en ce moment-ci?
Et le mot changement fait peur, Samuel. C'est-à-dire, c'est trop fort, c'est bon, là, changer la constitution. Mais réviser la constitution, oui, c'est prévisible. Et ça peut y arriver. Et vous savez que moi, j'estime que du côté de la majorité présidentielle, on peut conserver le pouvoir même après 2016 sans Joseph Kabila. Il y a des gens aussi qui peuvent devenir des dauphins de Joseph Kabila, et du côté de la majorité, qui sont valables, qui peuvent continuer à conserver le pouvoir.
Une assertion que le chef de l'État balaye d'un revers de la main.
Oui, il n'y a pas de dauphins, effectivement, mais on a toujours dit que... l'homme a toujours un début et une fin sur cette terre des hommes. C'est ça. Il faut toujours dire qu'un jour, le Joseph Kabila partira du pouvoir à tête de ce pays. Et Obem Minaku l'a dit que le Joseph Kabila partira le jour où il va céder le pouvoir à quelqu'un d'autre. Et c'est ça. Et le problème qui est là, c'est l'ouverture que donne l'article 70 de la Constitution. C'est une ouverture qui est favorable du côté de la majorité, parce que on dit à la fin du mandat du chef de l'État, du mandat du président de la République, et à la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Et c'est ça la grande question. Est-ce qu'il y aura-t-il des élections en 2016? Ça peut aller jusqu'à 2018, 2020, 2025. Et il faut qu'il y ait organisation des élections, effectivement, pour que le Joseph Kabila passe son bateau de commandement à quelqu'un d'autre. C'est ça la grande question. Même si on dit qu'il n'y aura pas de dauphin. Mais il faut savoir qu'il y a toujours un début et il y a une fin. Un jour, il finira par partir. Mais comment? C'est ça la grande question. Moi, je pense que c'est mieux de partir avec honneur, dans la grande porte. Et puis, on peut revenir, même parce que Joseph Kabila est jeune. Il peut revenir dans 5 ans, dans 10 ans. Et ils peuvent revenir avec force et puis il continue son œuvre qu'il a amorcée. Et pourquoi tellement essayer un peu de bouger les choses et pour créer des crises inutiles? Moi, je pense que du côté de l'opposition.
Oui. Je vous rejoins dans vos affirmations, mais j'aurais aimé que vous répondiez à ma question.
Oui.
Dans l'hypothèse où en fait la proposition de Claude Machala a l'emporté, quel pourrait être le risque aujourd'hui d'un changement de la constitution?
Ah, vraiment, si il arrivait à obtenir 100 000 signatures, et au niveau de l'Assemblée ou du Sénat, au niveau des deux chambres du Parlement, on arrive à actionner le mécanisme pour arriver à la révision ou au changement, comme il a dit lui-même. Mais je ne sais pas, ça sera logique, mais il y aura des conséquences, parce que je ne sais pas quelles sont ces dispositions qui seront changées ou Et quels sont... parce qu'il y a des articles verrouillés qui n'appellent pas, notamment l'article 220, où il est bien stipulé. Et vous souvenez que la durée et les mandats du chef de l'État ne feront jamais l'objet d'une quelconque révision constitutionnelle. C'est clair. Et si on parvient à y toucher, vous savez que ça va susciter encore beaucoup d'actions. Il y a des gens qui disent qu'il y aura des rébellions, il y aura des soulèvements, même au niveau de la population. Et nous ne voulons pas arriver à ce niveau-là. Nous voulons asseoir la démocratie, consolider la démocratie, parce que Joseph Kabila sortira héros à vraiment consolider la démocratie et laisser les choses sur le rail pour qu'un jour qu'on dise que non, c'est un bon démocrate, c'est quelqu'un sur qui on peut compter.
Ambroise Mamba, juste un mot avant de passer la parole à Israël Moutala.
Un petit mot, ce n'est pas difficile de réunir 5000 signatures. Il peut y arriver parce qu'il y a aussi de l'argent qu'il va dépenser. Ce n'est pas non plus facile de faire accepter cela au niveau du Parlement parce que le Parlement est majoritairement MP, ça c'est connu. Et donc il peut arriver à ça et changer la Constitution et l'obtenir. Mais le problème c'est qu'on va changer l'ordre et on sera au niveau de la 4e République. Et quand on est au niveau de la 4e République, ça signifie que il y a une crise de légitimité de pouvoir qui va naître et on va retourner vers les années antérieures. Ça sera pas bon pour notre pays.
Israël Moutala, quelle pourrait être, selon vous, la meilleure façon de rapprocher les points de vue entre la majorité et l'opposition en ce moment autour de ce sujet?
Non, il n'y a pas moyen de... Nous sommes dans deux objectifs. Il y a deux objectifs contradictoires, mais c'est le jeu d'une saine démocratie, mais à condition que toutes les parties respectent les règles du jeu. Il s'agit ici d'une majorité qui est en fin mandat et qui veut coûte que coûte conserver le pouvoir, mais de manière peut-être jusqu'à à violer les règles du jeu. C'est ça tout le problème. Et donc, cette révision, ce changement de constitution, si il advenait, va perturber la paix sociale, va perturber le fonctionnement régulier des institutions, et je ne pense pas que les Congolais aient besoin de cela. Les Congolais, ce qui les intéresse aujourd'hui, c'est l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, c'est de l'emploi pour les jeunes, c'est des infrastructures et tout ça. Je ne pense pas que la révision constitutionnelle ou le changement constitutionnel de Kev Machala changerait quelque chose à cela. Et donc, aujourd'hui, au lieu de concentrer l'énergie de l'État sur des questions essentielles de développement rural, de développement urbain, de nos populations en Ituri et partout ailleurs, mais non, on amène un débat vain, dépassé, égoïste, et on détourne l'attention des choses essentielles. Et j'espère que le chef de l'État et certains cas de la majorité ne vont pas se laisser distraire par cette action téméraire qui n'a pas de fondement, qui dénuée de tout sens.
Nous passons directement à notre deuxième thème de ce soir. Tous les sanctuaires et points stratégiques des ADF ont été détruits dans le territoire de Béni par les forces armées de la RDC. Information livrée à Radio Okapi lundi dernier par le porte-parole militaire des FRDC au Nord Kivu. C'est le résultat de 2 mois des opérations militaires contre ces rebelles ougandais qui ont investi le territoire congolais depuis 1986. Mais des questions continuent à se poser sur la situation d'environ 600 personnes prises en otage par ces rebelles ougandais entre 2010 et 2013. Gisèle Cage.
Depuis le lancement le 16 janvier dernier des opérations Sokola 1 à Beni Territoire, aucun otage de rebelle ougandais ADF n'a été retrouvé, selon Olivier Amouli, porte-parole des FARDC au Nord Kivu. Pour lui, il y a des fortes probabilités que ces otages aient été exécutés par ce rebelle ougandais, Olivier Amouli.
Pour être sincère, les otages, on ne les a pas trouvés. Nous ne savons pas s'ils avaient pris une direction soit de l'Ouganda ou alors ils ont été exécutés, parce que vous savez, le mode opératoire des ADF, c'était d'exécuter les gens. Nous croyons que la plus grande probabilité est qu'ils aient été exécutés. Et il y a quand même certains chemins qu'on a découvert. C'est possible que parmi les contenus, il y a certains otages.
Mais pour Amissi Kalonda, administrateur du territoire de Beni, l'espoir est encore permis car selon lui, les ADF en fuite se déplaceraient avec des colonnes de civils. Cette version est corroborée par la coordination de la société civile du Nord Kivu. Les chiffres officiels parlent d'au moins 600 personnes enlevés entre 2010 et 2013, pour la plupart dans le secteur de Benimbaou et dans la chefferie de Watalinga à Beni Territoire. Mais la société civile et certaines organisations de droits de l'homme parlent de 893 personnes retenues à ces jours par les ADF, parmi eux des femmes et des enfants. Goma, Gisèle Cajot, Radio Kapi.
Ambroise Mamba, comment est-ce que vous analysez cette information relative à la destruction à Beni par les forces armées de la RDC de tous les sanctuaires et points stratégiques des ADF?
Bon, c'est une information à saluer, je suis très content. Certainement, les FARDC ne l'ont pas fait seuls. Il y a également l'appui de la MONUSCO à travers la brigade d'intervention. Je pense que c'est une bonne chose. Il faut maintenant préserver ou bien consolider ses acquis. Et ce que j'allais dire ici, c'est que ça arrive dans un moment où il y a un débat vain qui arrive au niveau national, le changement de la Constitution. Mais pourtant, on devait se concentrer dans l'Est pour restaurer l'autorité de l'État. Mais malheureusement, si le chef de l'État arrivait à se faire distraire par le faucon, je pense qu'on risque de revenir à la case de départ sur le plan sécuritaire. Et c'est ici que je voudrais appeler peut-être au respect de l'accord cadre d'Addis Abeba. Je pense que c'est cet accord qui nous permet de pouvoir effectivement pacifier la partie orientale du pays. Et là, il y a des engagements de la RDC, notamment en ce qui concerne la consolidation de la démocratie, la réconciliation nationale, ainsi de suite. Mais déjà, si les changements de la Constitution arrivent, ça veut dire qu'on va piétiner cette consolidation de la démocratie, on va piétiner la réconciliation nationale, ainsi de suite. Et c'est ce qu'il ne faut pas souhaiter. Il y a aussi des engagements pris par les pays voisins, le Rwanda et l'Ouganda. Et les engagements de la communauté internationale, c'est ici qu'il faudra que la MONUSCO ou la communauté internationale, les Nations Unies, puissent rappeler ces engagements de nos pays voisins pour qu'on puisse les respecter. Comme ça, on sera un peu, mais si ce n'est pas respecté, on risque de revenir à la case de départ.
Claude Molucho, quel est le sentiment que vous éprouvez face à la destruction des différents sanctuaires des ADF Nalu à Beni au Nord Kivu?
On a toujours apprécié la montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, ça rassure le peuple congolais. Même ceux qui sont à Beni, à Rutshuru, à Masisi, Walikale, les Congolais qui sont sur place là-bas, ils sont rassurés par le comportement, le bon comportement des forces armées. Et ici, maintenant, avec ces prouesses, il faut maintenant que la communauté internationale, à travers la MONUSCO, parce que la MONUSCO est intervenue en retard dans ces opérations, vous le savez, c'est pas un secret. On a toujours réclamé que la MONUSCO intervienne aux côtés des FARDC.
Mais la MONUSCO combat toujours aux côtés des FARDC.
Oui, ce sont les FARDC qui ont commencé en premier lieu. Mais la MONUSCO vient en appui. La ADF Nalu et la MONUSCO est venue après.
Maintenant, pourquoi? Mais vient en appui.
Oui, elle vient en appui, effectivement. Mais elle est là pour ça, conformément à son mandat. Mais le problème, c'est qu'au niveau de Kigali et de Kampala, il faut qu'on institue aussi les dialogues. Chez nous, ici, il y a une concertation nationale, même si le gouvernement de cohésion nationale s'est fait toujours attendre. Il faut qu'il y ait dialogue au Rwanda, il faut qu'il y ait dialogue en Ouganda, pour que, au niveau du Congo, qu'on soit rassuré aussi, parce que on peut les chasser, on a chassé les CNDP, les M23 est venu, et puis les M23 étaient chassés, mais il y a aussi un autre mouvement qui se prépare en Ouganda ou à Kigali. C'est ça la grande question. C'est ça le grand défi. Au niveau, maintenant, il faut appuyer sur l'accélérateur, sur le plan diplomatique, pour qu'au niveau de Kigali, au niveau de Kampala, qu'on arrive à construire un dialogue avec les opposants qui sont armés et non armés, qui sont à l'extérieur, l'autre même s'organise au niveau de l'Occident pour revenir au pouvoir, ou soit pour faire face à ceux qui sont au pouvoir au Rwanda et en Ouganda, pour que qu'il y ait paix. Quand il y a le dialogue, les gens vont faire des concessions et ils arriveront à un compromis. Mais au Congo, le pouvoir a ouvert les portes et puis il y a eu dialogue, même s'il y a des gens qui ont refusé de participer aux concertations du côté de l'opposition. Il y a certains membres de l'opposition qui ont refusé de participer. Mais quand même, il y a un grand nombre qui est venu pour participer à ce dialogue national et il y aura un gouvernement qui aura la charge d'exécuter les recommandations des concertations nationales. Mais au niveau du Rwanda, depuis plus de 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans, il n'y a jamais de dialogue. C'est toujours un pouvoir très fort qui est en train de brimer les opposants et personne n'ose répondre à cette question-là, trouver solution à cette question-là, répondre à cette interrogation. C'est ça la grande question. Est-ce qu'on a peur de Kagame et de Museveni? Je ne sais pas. Et au niveau même de l'accord d'Addis Abeba, a beaucoup d'exigences sur la RDC, mais pas
du côté des Rwandais, pas du côté des Ougandais. Pourquoi? C'est ça le grand défi, moi, je pense que la communauté internationale peut intervenir dans ce sens-là.
Israël Moutala, malgré la destruction des sanctuaires des ADF, le retour des populations dans les zones libérées tarde à se réaliser. Et selon, bien sûr, l'autorité administrative sur place, beaucoup reste à faire pour faciliter ce retour. Comment vous analysez cette affirmation?
Bon, je pense que la population du Nord Kivu, et en particulier celle de l'Est en général, a beaucoup souffert des atrocités à cause de l'activisme des groupes armés. Et donc, même si les FRDC ont pu quand même vaincre les ADF Nalu et prendre leurs quartiers généraux, c'est une très bonne nouvelle, je m'en réjouis beaucoup, mais pour restaurer la confiance avec la population, ça prend du temps. Il faudra que la présence militaire soit renforcée, soit plus visible pour rassurer les populations. Il faudrait qu'après le passage de l'armée, que les autres administrations comme la police prennent effectivement possession des lieux afin de sécuriser encore davantage la population. Parce que cette armée qui a sécurisé, qui a pris les quartiers, va se déporter peut-être vers d'autres théâtres d'opérations. Ce qui peut occasionner des représailles de quelques groupuscules. Donc, la population a besoin d'être rassurée petit à petit, mais il faut d'abord déjà se réjouir de la défaite et de la volonté du gouvernement de poursuivre cette campagne contre les groupes armés à l'Est. C'est une excellente nouvelle, c'est ça l'essentiel, la pacification de l'Est, le retour des populations civiles dans leur territoire et relancer le développement. Voilà les fondamentaux dont on a besoin et pas question de nous distraire avec des pétitions vaines et tout ça. Donc la question sécuritaire ne doit pas non plus être liée au dialogue hypothétique au Rwanda ou à l'Ouganda comme le suggère mon confrère Mondicho. C'est une question qui nous concerne, qu'il y ait ou pas dialogue au Rwanda, qu'il y ait ou pas dialogue à l'Ouganda, notre armée d'être en mesure de sécuriser les frontières, de sécuriser les populations civiles. C'est ça notre credo. Nous avons travaillé justement à la maturité, à la maturation de notre armée, de notre système de sécurité. On ne doit pas justement nier, si on avait une frontière non poreuse, si on avait une armée aguerrie, les ADF Nalu, les rebelles rwandais ne s'aventureront pas sur notre territoire. Ils vont se battre entre eux, s'ils ne s'entendent pas. Tant pis, ils s'entretueront entre eux. Mais chez nous, nous ne voulons plus que les conflits de pays voisins comme le Rwanda et l'Ouganda, que notre population innocente puisse payer le lourd tribut de toutes ces guerres fratricides entre les pays limitrophes de la RDC. Et donc cela passe par la restauration de l'armée. Nous ne devons pas conditionner ça à des hypothétiques dialogues au Rwanda ou en Ouganda. Cela, c'est faire fausse lecture de rapports de force dans la sous-région.
Claude Moïse, je vous vois instamment demander la parole avant de la donner, bien sûr, à Ambroise Mamba.
Tout à fait. Je voulais juste apporter une précision en rapport avec ce que mon confrère Israël vient de dire. Vous savez que les États vivent en interdépendance. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas en vase clos. La RD Congo, d'ailleurs, est dans des organismes avec les Rwanda, avec l'Ouganda, et nous sommes au niveau CAC, ou c'est au niveau de les derniers sommets qui viennent. C'est-à-dire ici le sommet du COMESA, nous sommes dans la CPGL, nous sommes en Afrique, dans l'Union africaine. Donc, nous ne pouvons pas dire que non, ces gens-là, ils peuvent se battre chez eux. Non, ça risque toujours de se répercuter chez nous. Donc, nous avons tout intérêt qu'il y ait paix chez nous d'abord, et paix aussi au Rwanda et en Ouganda. Et sinon, si ça dégénère là-bas, ça risque de se répercuter chez nous. Voilà pourquoi nous disons qu'au niveau de la communauté internationale, on doit avoir les mêmes visées sur les Rwanda, l'Ouganda et la RD Congo. Et non dire toujours qu'il y a beaucoup d'exigences sur le gouvernement congolais. Et au niveau du Rwanda, on est large et on peut tolérer certaines choses. Non, c'est pour ça que je voulais dire à mon confrère d'Israël que non, nous voulons ce qu'il y ait dialogue entre Rwandais, dialogue inter-ougandais, et pour qu'il y ait paix, qu'il y ait entente mutuelle, et que la démocratie puisse triompher, et non les armes, et non un pouvoir très fort, où on dit que nous gérons là, jusqu'à la fin du monde, et c'est pas bon.
Je signale que dans moins de 5 minutes, nous serons déjà vers la fin de l'émission. Ambroise Mamba, apparemment, vous avez un élément à compléter.
Oui, justement, Samuel, les problèmes ici, nous ne devons pas pleurnicher. négocier. Nous ne sommes pas là pour demander un dialogue au Rwanda ou à l'Ouganda pour que nous puissions avoir la paix. D'ailleurs, ce dialogue-là, lorsqu'on le demande souvent, si Molicho suit bien les réactions du président
Kagame... Nous devons déjà conclure.
Je suis en train d'y arriver. Donc, s'il suit bien les déclarations de Paul Kagame et du président ougandais, il verra bien que ces gens-là ne veulent pas de ce dialogue-là. Ils veulent pas de ce dialogue. Et nous, qu'est-ce que nous, on doit faire maintenant là? Parce que c'est vraiment hypothétique. Nous, on doit croiser les bras, continuer à pleurnicher. Non, nous, on chasse ces rebelles ougandais et rwandais sur notre territoire qui ont continué à endeuiller nos populations. Nous les chassons. Ils vont subir la puissance des FARDC. Et on les traque. Et puis, ils partent. C'est fini. Et que les Rwandais et l'Ouganda fassent d'eux ce qu'ils veulent.
Au-delà de la traque de ces rebelles, quels sont les autres défis qui restent pour pacifier et sécuriser l'Est de l'Ouganda?
Justement, après les avoir traqués, chassés, maintenant, il faudra sécuriser les frontières. Il faut bien sécuriser nos frontières, rétablir l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Et c'est vrai, et ça pose un problème de budget, un problème lié au timing, ainsi de suite. Mais il faut y arriver. De cette manière-là, on va sécuriser nos frontières et puis on va donner la paix à la population. Et voilà pourquoi je le dis que ça passait notamment également par le respect des engagements qui sont contenus dans l'accord cadre d'Addis Abeba. Et si la MONUSCO, à travers la brigade, même si vous avez souligné ici que non, la MONUSCO vient en appui, oui, en appui, mais si la MONUSCO souffle les chauds et les froids, c'est là que ça pose également problème. Il ne faudra pas que la MONUSCO souffle les chauds et les froids pour se maintenir en RDC. Il faut aider la RDC à aller jusqu'au bout et avoir la paix une fois pour toutes. Et c'est cela qui va nous aider à aller vers le développement.
Je considère cela comme votre conclusion. Israël Moutal, nous sommes à moins de 4 minutes de terminer l'émission. Votre conclusion également.
Ma conclusion, travailler à la restauration de l'autorité de l'État, un État que nous voulons impartial, une police, une armée républicaine, et cela passe justement par un sens élevé de l'État, de l'éthique et tout ça. Donc, dans le territoire jadis occupé par les ABF Malou, le déploiement de toutes les administrations de l'État pour rassurer et prendre en charge nos populations, sans attendre un hypothétique dialogue au Rwanda ou à l'Ouganda. Il nous appartient à nous de sécuriser nos frontières parce que les débordements, ne se font-ils pas en Tanzanie ou dans d'autres pays, seulement en RDC? Il y a guerre en Centrafrique, mais de ce côté-là, c'est plus ou moins organisé, ça ne déborde pas ici. Il y a guerre au Sud-Soudan. Et donc, faut pas oublier que le Rwanda, surtout, avait des velléités d'annexion de notre parti. Et donc, c'est à nous de nous organiser en termes d'armée, de police, de services de ce renseignement pour contrer les menaces rwandaises. Et on n'aura même pas besoin de leur dialogue. Si le dialogue inter-rwandais est là, tant mieux. S'ils se réconcilient, tant mieux. Mais s'ils ne le font pas, ils ne doivent pas nous faire subir, à nous, à notre population, les désordres, leur haine sur notre territoire, nous n'en voulons plus.
Claude Moluche, nous terminons cette émission avec vous.
Oui, moi, je dirais que, en guise de conclusion, que nous avons besoin d'asseoir la démocratie au Congo, dans les pays limitrophes de la RD Congo, en Afrique, pour que nous puissions vivre dans la modernité et non vivre comme des gens qui cherchent à s'accrocher même si ça ne va pas. Non, il faut vraiment qu'on puisse avoir la culture démocrate, des démocrates. C'est-à-dire que je suis là, je sais qu'il y a un temps, je peux partir, quelqu'un d'autre peut venir avec de nouvelles idées. Et au niveau du front de l'Est, au niveau de Béni, je félicite les FARDC. Vraiment, ça donne la confiance entre l'armée et son peuple, parce que l'armée est derrière le peuple et la RDC sera très très fort. Et là, il faut que le gouvernement qui sera mis en place bientôt, le gouvernement de cohésion nationale, puisse vraiment s'occuper de la sécurisation et de la gestion rationnel de cet espace-là, du Nord Katanga jusqu'à Nitouri, et en passant par une grande partie du Maniema, parce que ces zones-là, il y a beaucoup de troubles, beaucoup de bandes armées, et il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de moyens pour vraiment que ces bandes armées ne puissent plus être actives pour terroriser, pour massacrer la population, et ne plus permettre aux pays voisins comme l'Ouganda et le Rwanda de s'infiltrer chez nous chaque fois et nous pleurnicher pour dire que non, voilà, et nous sommes agressés, nous sommes... Non, cette fois-ci, avec la montée en puissance des FARDC, nous sommes sûrs que nous allons y arriver et nous allons même faire avancer ces pays sur le plan démocratique et sur le plan puissance, parce que la RDC Congo a un rôle à jouer en Afrique centrale comme en Afrique tout entière, comme puissance avec l'émergence de la RDC d'ici 2030 et en tant que pays à revenus intermédiaires d'ici 2018.
Merci beaucoup Claude Moliche. Je rappelle que vous êtes journaliste de la Radio-Télévision Nationale Congolaise. Je recevais également dans cette émission Ambroise Mamba. Il est journaliste à la télévision Congo Web, une télévision qui émet depuis Kinshasa. Et Israël Moutala, journaliste à Géopolis et magazine économique. Cette émission vous était présentée par Samuel Kachak. Paul Badianiam était à la technique. Alain Rung à la réalisation sous la supervision de Pelé Kipelamondo. La rediffusion de cette émission, c'est demain matin à 4h15 heure de Kinshasa. Merci et bon week-end sur Radio Okapi.